France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Il s'appelle Hervé Fornery, mais se fit appeler Dick Rivers pour que ça sonne américain, comme ses idoles Elvis Presley, Gene Vincent ou Johnny Cash. À 15 ans, il fonda les Chats Sauvages, qui s'appelèrent un temps Jerry Joyce and the Joyce Men, un groupe qui fut, avec Johnny Hallyday et les Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell, parmi les pionniers en France du rock'n'roll. Parmi les œuvres marquantes des Chats Sauvages, on se souvient de l'immortel Twist à Saint-Tropez. Mais très vite, Dick Rivers quitta les Chats pour mener sa carrière en solo, fidèle pour l'éternité à ses amours américaines de jeunesse, qu'elles soient rock, blues, country ou cajun. Il fit quelques rares incursions dans le cinéma, dont deux avec Jean-Pierre Mocky. Plus inattendu, il était en 2004 sur la scène du Théâtre National de Chaillot pour y jouer Les Bonnes de Genet. Ses jeunes années de rocker, Dick Rivers les a racontées dans un livre autobiographique dont le titre « Hamburger, Pambagna, Rock'n'Roll, etc. » rappelait ses origines niçoises. En 2012, il était l'invité d'Hélène Azéra dans « Chanson Boom ».
As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Boum!
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
Boum! De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum!
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 Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture. Un divertissement proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Boom, boom.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Dick Rivers, je suis bonsoir. Un petit peu impressionné parce que vous êtes une légende de la chanson francophone, vous savez que je dis francophone parce que ça élargit le public hein, finalement. C'est un peu terrible quand on dit légende, patrimoine, des choses comme ça. On m'a dit que Patachou disait à quelqu'un « oui, je fais tellement partie du patrimoine qu'il n'y a personne qui peut payer un rang pour me visiter
». Non, ben moi ça va de ce côté-là, j'ai pas de problème.
On a l'impression que les artistes se fabriquent un personnage. Et vous êtes fabriqué un personnage Dick Rivers, alors qu'on a vraiment l'impression, dès qu'on commence à regarder un petit peu votre biographie, que vous êtes beaucoup plus compliqué que l'image qu'on pourrait mettre à côté de Lucky Luke, vous voyez.
Ah oui, bien sûr. Non, mais moi, vous savez, j'ai toujours été comme ça. Hein. Je veux dire, je me suis jamais déguisé. En réalité, je suis ce que j'étais quand j'avais 13, 14, 15 ans, quoi. Et j'ai pas, j'aime les mêmes vêtements, je me suis payé grâce à ma carrière tout ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Mais c'est des choses très, très bêtes, quoi. C'est des guitares Gibson acoustiques, c'est des bottes de cow-boy, c'est... voilà. Mais j'ai pas de... Je suis quelqu'un de très, très simple. Voilà.
On va partir avec une chanson autobiographique, puisque vous nous présentez un nouvel album écrit avec des auteurs comme Jean Fauque, qui a longtemps œuvré pour
mon
Bachung.
Ami Alain, ouais.
Mais c'est vrai que votre rencontre avec Bachung, elle date des années 70, donc ouais. C'est une histoire tout à fait logique. Donc je propose d'écouter l'histoire de vie et la musique et de Oli le Baron.
Oui.
Je me promène dans tes pensées, j'ai
l'impression d'être au ciné. J'y vois nos destins animés. Le scénar est jamais figé. J'aime cette scénario. Quand tu affrontes les bravos, tout en flinguant quelques narcos. À ce moment-là, j'ai eu chaud. C'est un western, un polar, qui coûte qu'une poignée de dollars. Une comédie, ou comme on dit, juste une belle histoire de vie. Sonne sur la violence, ça me rappelle l'histoire de France. Et soudain voici que tu danses, séduis le héros de la romance. C'est un western, un polar, qui coûte une poignée de dollars. Une comédie, ou comme on dit, juste une belle histoire de vie.
Dick Rivers, comment s'est fait la rencontre avec Jean Fauque? En fait, vous le connaissiez depuis toujours?
Oh oui, c'est Alain qui me l'avait présenté. En réalité, la rencontre artistique s'est faite en 2006, aussi bien avec Jean qu'avec Oli Le Baron, qui a réalisé l'album Mr. D, qui a fait toutes les musiques, etc. Parce que je faisais l'album éponyme à ICP à Bruxelles. Et donc, Oli avait été choisi par Mitch Olivier, qui était le réalisateur en tant que guitariste. Et puis, à un moment, Oli m'a proposé une musique, qui bien sûr n'avait pas de texte, puisque Oli écrit tout en anglais au départ. Et tout de suite, Mitch a pensé à Jeannot, à Fauque. Et donc, c'est la première fois qu'il a écrit pour moi. Puis après, on est restés très amis. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'à la même époque, dans ce studio à ICP, dans le studio d'à côté, il y avait Alain, qui était en train de commencer Bleu Pétrole. Et donc, j'étais ravi de le revoir, etc. À l'époque, il n'était pas encore... Enfin, du moins, il ne savait pas qu'il était malade. Et c'est drôle parce que je dis toujours qu'Alain, qui a été vraiment mon frère de Alain Bachung, bien sûr,
petit
qui
frère,
est mon frère de...
Petit frère.
De musique, parce qu'on était vraiment les mêmes. Il m'a suivi pendant des années. C'était presque ma groupie numéro un. En nous quittant en héritage, il m'a laissé Jean Fauque. C'est voilà, parce qu'à l'époque, Alain était très, très, très possessif.
Un bel héritage.
Ah, oui.
Alors, j'avais rencontré un ami qui avait maquillé Marlène Détrée sur le dernier film qu'elle avait fait, où elle chantait Just a Gigolo. Mm. Et il lui avait fait un maquillage de 3 heures. Et puis, elle a regardé le maquillage et elle a dit, vous m'avez maquillé en Marlène Détrée. Est-ce que vous demandez à vos auteurs de vous faire du Dick Rivers ou justement...
Oh non, non, surtout pas. Vous savez, moi, je ne suis qu'un interprète. Et ça, je sais, c'est un problème très français qui est dû à la langue, parce que on est quand même le pays de Molière, et je sais que très souvent, depuis 3 albums, les journalistes qui me font des interviews très souvent me disent, mais dans cette chanson, qu'est-ce que vous avez voulu dire, etc. Je leur dis toujours, mais moi j'ai rien voulu dire. C'est l'auteur qui a... Moi j'ai choisi la chanson exactement comme quand quelqu'un écoute une de mes chansons. C'est-à-dire, on me présente des musiques, et après, Jean a le talent nécessaire pour mettre les paroles dessus. J'ai jamais fait changer un mot, si, peut-être une fois, parce que ça sonnait mal. Mais je veux dire, à partir du moment où j'épouse le talent de quelqu'un, c'est un choix que je fais, quoi. Alors, à tort ou à raison, mais j'assume. C'est-à-dire par là que c'est pas comme si j'en étais l'auteur, je suis incapable de
mais
faire
vous
des
vous
textes.
Mais vous vous l'appropriez.
Ah ben, bien sûr.
Gilbert disait, le véritable créateur d'une chanson, c'est celui qui la chante.
Absolument. Non, mais d'ailleurs, je trouve que ce métier...
Qu'est-ce que vous mettez dans les paroles
On m'aime ou on m'aime pas, mais je mets ma personnalité. Puis quand ils me disent, quand les auteurs-compositeurs me disent « Ah, Dick, tu m'as donné les poils, tu m'as filé les poils », ça veut dire « tu m'as filé le frisson », ma mission est presque accomplie, quoi, parce que ça veut dire quelque part que j'ai bonifié leur œuvre.
Mais il y a un côté un peu désillusionné, il y a un côté orgueilleux mais qui se moque de son orgueil. Y a dans toutes ces chansons, vous voyez quand on dit c'est dur d'être Dieu.
Ah oui. Bien sûr, non mais c'est dur d'être Dieu.
Comment vous le prenez vous?
Ah non mais moi j'ai compris tout de suite ce qu'il a voulu dire, c'est dur d'être Dieu, c'est parce que tout simplement aujourd'hui dans le monde entier, ça fait d'ailleurs des générations et des générations, des centaines d'années que les hommes se foutent sur la gueule au nom de Dieu, quoi. Et c'est pour ça que moi je suis anti-religion, que ça, je déteste les extrémistes catholiques, je déteste les extrémistes
et tous
juifs,
les autres.
Arabes et compagnie, parce que c'est toujours au nom de Dieu. D'accord. Et donc ce qu'il a voulu dire Jean, c'est à travers cette chanson, en disant si on pouvait parler à Dieu, Dieu nous dirait simplement, vous savez, il est dur mon métier, parce que moi je vous ai pas fabriqué, je vous ai pas créé pour que vous foutiez sur la gueule, quoi.
Alors Jean Fauque, un disciple de Raymond Lulle, ça c'est moi qui balance en douce, cherchez à Raymond Lulle dans Wikipédia, vous verrez, c'est dur d'être Dieu.
Cette planète, y a des choses pas très nettes. Plein de trucs dingues depuis le Big Bang. On te vénère, on t'adore, on te fête. Et pourtant personne ne parle ta langue. C'est dur d'être Dieu, je sais. C'est dur d'être Dieu. On ferait pas mieux, je sais. Même dans les cieux. Pourquoi la mort est plus forte que l'amour? Pourquoi la vie dévore? Pourquoi carnivore? Pourquoi l'homme est un loup qui hurle comme un sourd? Pourtant tu nous as fait aussi un peu rêveurs.
être Dieu. Je serai, c'est dur d'être Dieu. On fera pas mieux. Je serai, même quand on sera vieux.
C'est dur d'être Dieu, de Fauque et Oli le Baron. Mmh. C'est chiadé l'emballage musical. Il y a du.
Ah ben ça, c'est Oli. Hein. Il a beaucoup de talent. Il sait ce qu'il veut.
Un peu de xylophone.
Ouais. Mais il a fait plein d'instruments, lui. Hein, ouais. Parce que c'est non seulement, bien sûr, un merveilleux guitariste, mais c'est un multi-instrumentiste. Il joue aussi bien des claviers que de la basse. Enfin, c'est un musicien complet. D'ailleurs, il aime pas qu'on l'appelle mon guitariste, c'est mon compagnon. Vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment formidable. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, on est en tournée en ce moment et dans tous les concerts, il y a 95% des musiciens qui ont joué sur cet album qui sont avec moi sur scène. Que ça soit les cuivres, que ça soit la violoncelliste, qu'on n'a pas tout le temps, mais qui vient de temps en temps, que ça soit le bassiste, que ça soit le batteur, enfin, tout le monde.
On est très loin des arrangements du début où il y avait trois guitares, un saxophoniste et une batterie.
Ah oui, oui, mais ça, moi, j'ai.
C'était punk au début.
Je vais vous dire une chose, c'est que moi, oui. j'ai toujours voulu évoluer. Vous savez, moi, je me considère comme un éternel débutant. Mm-hmm. Et très souvent, on me dit, mais ça fait 50 ans que tu chantes, etc. Mais où trouves-tu ce. Mais parce qu'en réalité, je suis, oui, je répète, je suis un éternel débutant. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai voulu apprendre et connaître des gens, des sentiments nouveaux à travers la musique que j'adore par-dessus tout. Mais je me rappelle quand j'ai créé les fameux Chats Sauvages qui sont le 24 avril 61, le jour de mes 15 ans. Je les ai quittés en août 62, mais déjà à partir de septembre 62, mon rêve c'était d'être en studio avec parce que
avec des musiciens. Après avoir fait 245 tours, c'était.
Ah oui, mais on allait très vite.
C'est affolant. Hein.
On sortait.
On partait pas à Los Angeles une année pour faire un CD avec les meilleurs musiciens américains.
On faisait un disque dans la journée. C'est-à-dire, mais même après, à partir de 62, le matin, il y avait ce qu'on appelait la rythmique. À 13h30, il y avait les re-reux de violon et de cuivre. À 17h, on faisait les voix. Il n'y avait pas de mixage, il n'y avait rien du tout. Hein, c'était en stéréo, mais il n'y avait pas des multipistes comme aujourd'hui. Et ce qu'il y a de très drôle et de paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, où on a vraiment tout ce qu'on veut en technique, plus on a de moyens... Plus c'est long. Parce que c'est toujours l'éternelle recherche de la perfection qui fait que on laisse plus rien passer. Et Oli, il est comme moi. Moi, j'aime bien certaines... pas erreurs, mais...
Quand il y a du grain.
Voilà. Ouais, vous voyez, c'est pour ça qu'on essaye d'enregistrer le plus live possible, parce que la perfection, des fois, enlève tout sentiment à la musique, quoi.
Alors, quand j'écoute votre voix, il va y avoir deux pôles. Il y a un pôle, c'est un peu facile, c'est vous dire, vous avez quand même quelque chose d'une voix italienne. Mmh. Mais bon, je sais que...
Bah, ça, c'est mes origines niçoises.
Voilà. Ouais. Et puis, l'autre pôle, c'est justement la voix rock au début du rock. Alors, je ne sais pas, il y a une espèce de maniérisme dans le rock, avec, vous savez, les petits hoquets.
Ah oui.
Vous avez une façon de faire « et » de rajouter les « et ». Et ce qui est intéressant, c'est justement le mélange de ces deux, ce côté très, très chaleureux et puis de souplesse, hein, des voix proches de l'Italie. Est-ce que vous écoutiez la musique italienne?
Oui, bien sûr. Ben, vous savez, même au niveau rock'n'roll, très souvent je raconte ça, parce que moi j'avais une double chance dans ma jeunesse, c'est que premièrement... j'ai toujours vécu avec, à côté, à Villefranche-sur-Mer, une base américaine. Donc, oui. À Nice, c'était bourré d'Américains qui avaient leur bar, qui avaient leur culture, quelque part. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert un peu avant tout le monde cette musique, parce qu'ils amenaient avec eux leur civilisation. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Alain Bachung, dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil. Mais lui, c'était dans l'est de la France. Il y avait une base américaine près de son village. Et il a eu la même jeunesse que moi. Et parallèlement, on avait bien sûr, les influences italiennes, comme vous disiez si bien. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait des chanteurs comme Adriano Celentano, Little Tony, tout ça, qui faisaient du rock, déjà, en italien ou en anglais. Et
Louis Prima, il y avait...
Oui, mais ça, Louis Prima...
Un italien d'Amérique.
Oui, voilà. Tandis que moi, je vous parle d'italien, oui. D'Italie, quoi. Oui. Et d'ailleurs, nous, notre première... réflexion, quand on a voulu passer une audition, ça n'a pas été de monter à Paris. C'est d'abord d'aller en Italie, parce que pour nous, le rock'n'roll, c'était bien sûr les États-Unis et l'Angleterre. Ça, c'était les maîtres à penser, surtout les États-Unis, et parallèlement, les Italiens. Et c'est que par la suite, grâce à une rencontre avec quelqu'un qui nous a dit « Mais pourquoi vous ne montez pas à Paris ? Il y a un petit nouveau là qui est en train de casser la baraque, qui fait du rock, qui s'appelle Johnny Hallyday », qu'on a dit « Bah tiens, on va monter à Paris », mais c'était pas logique dans notre tête de faire du rock'n'roll à nous, en tant que Niçois, de faire du rock'n'roll en français.
Ça m'étonne pas, alors que on penserait au départ que c'est très différent, qu'on vous retrouve avec Cabrel, parce que vous êtes de l'école sudiste.
Ah, mais bien sûr.
Et une espèce de fierté, alors que, comme d'habitude, les Parisiens essayent d'écraser tout le monde.
Ouais.
Vous défendez dans votre coin pour avoir une petite identité à vous qui est forcément...
Bah, d'ailleurs, moi, je suis pas du tout issu. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui croient me faire plaisir en me disant « Ah là là, la belle époque, le Golf Drew et compagnie ». Moi, je dis « Mais moi, j'ai jamais mis les pieds au Golf Drew ». Si, pour faire des émissions d'Albert Reisner et autres, mais je veux dire, c'était pas... Je ne suis pas sorti du golf, moi. Mmh. J'étais un petit provincial qui suis arrivé à Paris. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui a créé cette rivalité légendaire et ridicule, parce que ça venait du fait que les autres étaient parisiens et que nous, on était provinciaux.
Sudiste ou sudiste,
ouais.
Ça fait plus chic.
Sudiste.
En même temps, bon, il faut bien le dire, toute cette génération est prise du rock'n'roll. Vous n'avez eu aucun retour du côté des Américains. Ça a été une vraie marâtre, cette culture américaine.
Ah,
je me rappelle avoir lu une phrase dans, je crois que c'était dans le New York Times, où on parlait d'un célèbre chanteur français en disant « Oui, à Paris, il remplit les stades, à New York, il remplirait pas une cabine téléphonique.
Ouais. »
Et vous preniez tous des noms anglais. Et c'est mon temps qu'on invitait. C'était tous ceux...
Absolument. Ou Maurice Chevalier. Vous avez complètement raison. Regardez,
Est-ce que vous trouvez pas que vous avez eu tort d'avoir mis tous vos œufs dans le même panier?
Mais non, parce
que c'est... Et qu'en cultivant une culture locale, même... Parce que bon, à partir de Trenet, le jazz, il est déjà dans la chanson.
Bien,
hein,
sûr, bien, sûr, bien sûr.
Mais est-ce que n'étant pas obnubilé par cette culture américaine blanche, parce que quand même la plupart du temps...
Oui, oui, bien sûr. Mais bon, chère Hélène, je vais vous répondre à ça. C'est un problème de... C'est pas un phénomène musical, le rock'n'roll. C'est un phénomène musical qui accompagne surtout un phénomène social. Et à cette époque-là, si vous préférez, le rêve était américain. Donc tout ce qui était... le cinéma, 80% des films qu'on allait voir étaient des films de série B américaine, des westerns, etc. Donc le rêve de tous les jeunes de mon âge, c'était d'aller un jour aux États-Unis. Parce que c'était le pays du rêve, le pays où tout était possible. Et au milieu de tout ça, il y avait cette musique qui nous touchait. Et on voulait surtout pas, quelque part, écouter ou réécouter ce que nos parents écoutaient. Pour nous, ce qui était révolutionnaire à l'époque, c'était des gens comme Brassens. Pourquoi ? Parce que Brassens, c'était... il y avait un côté interdit. Moi, je me rappelle, j'allais écouter les disques de Brassens chez la maman d'un copain, parce qu'on pouvait pas acheter les disques de Brassens à moins de 16 ans. On pouvait pas acheter de disques de Brassens à l'époque, pour nous, les jeunes. Donc, vous voyez, c'était... et vous verrez, si vous parlez à tous les chanteurs français, la plupart ont tous adoré Brassens, ont tous adoré Brel. Et moi, quand j'ai croisé chez Pathé Marconi à l'époque, que j'ai croisé l'idole de ma mère qui était Luis Mariano, quand je lui ai raconté ça, elle était aux anges, quoi. Pour elle, j'étais arrivé au pinacle parce que j'avais croisé Luis Mariano dans les studios. Non mais, on peut pas expliquer ça. Vous voyez, et si tout était à recommencer, je recommencerais pareil, parce que c'est ces racines-là qui ont fait la si personnalité il y a, la personnalité que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc je le revendique.
La balade de l'échographié, donc le texte est de Oli le Baron.
Et Hélène, qui s'est fait aider
par sa compagne.
Ouais.
Et donc la musique de Oli le Baron. Vous vous rappelez quand il vous l'a apporté?
Ah oui, c'est une...
Est-ce que vous commandez?
Ah non, pas
du
tout.
J'aimerais bien avoir une chanson
jamais. Moi, mes disques se font par des rencontres, par des gens, que ça soit l'album précédent, le dernier c'est Mister D, mais l'homme sans âge, pardon.
Oui.
Je cherchais le titre. C'est une rencontre au Francofolie avec mon ami Joseph Danvers. Mm-hmm. Et je lui ai tout simplement dit ce que font tous les interprètes, c'est-à-dire je lui ai dit, écoute, si un jour t'as une idée de chanson, comme ça collait bien entre nous, je lui ai dit, la porte est ouverte et voilà ce que ça a fait. Donc, Oli, ses musiques avec des textes anglais, il les avait fait pour moi. Comme c'est écrit sur l'album, c'est-à-dire que ça a été enregistré au Baron Studio Jive Itinérant, c'est-à-dire qu'il y a des musiques qui ont été faites à Long Island à côté de New York, d'autres à la Nouvelle-Orléans, d'autres à Balma à côté de Toulouse, d'autres en Angleterre, d'autres à Bruxelles, et puis après il m'a présenté tout ça, et après le problème des textes a commencé à se poser, et c'est pour ça que quand il a fait la balade de l'échographie, j'ai trouvé ça magnifique, cette histoire de ce garçon qui vieillit et qui se rappelle finalement qu'on l'a échographié toute sa vie depuis le ventre de sa maman, quoi.
La balade de l'échographié, donc Oli le Baron et Hélène, musique Oli le Baron.
Il faisait chaud, il faisait froid, tranquille et dangereux à la fois. Quand j'avais faim, elle était là, elle ne dînait jamais sans moi. Mais tout ça est tellement loin que je ne me rappelle plus très bien, ou juste assez pour vous conter la balade de l'été. Les ultrasons résonnaient en moi, telle une armée de Sinatra, de la Louisiane au Canada. Cet écho ne me quittait pas, mais tout ça est tellement loin que je ne me rappelle plus très bien, ou juste assez pour vous conter la balade de l'été. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas,
télé, radio et cinéma. L'écran montrait tous mes faux pas, mais pas le cœur, loin de tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment loin, et je ne me rappelle pas très bien, ou juste assez pour vous conter la balade l'échographiée. Un jour à l'est, un jour à l'ouest, l'écho ne dit jamais pourquoi. La vie n'est rien qu'un vaste test, un bout d'essai hors caméra. Mais tout ça est tellement loin que je ne me rappelle plus très bien, ou juste assez pour vous conter la balade l'échographiée.
Rivers est en train de me raconter ses souvenirs de radio en pays cajun,
oui.
En Louisiane.
Oui, oui, mais c'est très drôle parce
Alors, vous parliez en anglais, parce que le français cajun, il faut s'accrocher un petit peu quand même.
Hein. Je comprends, moi. C'est pire que le
char
québécois.
Char bébé, char et bébé. Ouais, pour
c'est, qu'est-ce qu'ils disent vers checker mes tires, magasiner. Ça, enfin, mais ça, c'est très
ça,
proche.
Ça,
du...
c'est plutôt québécois.
Oui, mais ils le font
c'est
aussi.
C'est le chiac. Ouais, ouais. C'est le chiac où on met un mot de français et un mot d'anglais.
Ouais. Mais bon, bah, c'est normal parce que...
Donc vous avez découvert avec les Cajuns que la musique que vous aimiez, en fait, c'était un tiers au départ de la musique Cajun, parce que Presley a une ancêtre, je crois que sa mère était française Cajun.
Ah bon ? Bravo. Alors ça, vous me l'apprenez.
Et puis du sang amérindien, parce qu'on regarde...
Ah bah bien sûr, si on regarde Elvis, c'est sûr. C'est... Mais ça, ils en ont tous, et les Cajuns aussi, d'ailleurs. Parce que la raison de la survie des Cajuns en Louisiane, ça venait du fait que ce sont les seuls qui ont fait pacte d'amitié avec les Indiens de l'époque. C'est les Indiens qui leur ont permis de résister aussi bien aux alligators que
aux moustiques.
Tout. Et ils l'ont appris à pêcher, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont tous du sang mêlé, ils ont ces cheveux très bruns. Et moi, j'adorais la musique cajun. J'ai fait un disque, d'ailleurs, avec Rufus Thibaudeau, le fameux. Le fameux album
les
de 76.
Les frères Balfa, ils étaient encore debout, les fameux frères Balfa?
Non, j'ai pas connu
non,
ça.
Non, non. Pas connu.
Et puis surtout, moi, j'ai un chanteur que j'adorais, enfin, que j'adore toujours, il s'appelle Doc Kershaw. Et qui est vraiment un Cajun, mais alors lui plutôt Cajun, mais qui parle anglais parce que.
Ben oui.
Donc moi j'ai fait des disques en Louisiane, donc j'ai toujours adoré cette musique.
Speak French no more.
On oui,
écrivait
ah ben oui, c'est
sur les murs des écoles.
Ouais, bien sûr.
Je vous propose d'écouter un autre chanteur que vous aimez beaucoup, oui. Puisque c'est lui qui vous fournit vos textes. Et c'était un petit peu pour donner aux auditeurs l'idée, justement une chanson par un interprète et une chanson chantée par l'auteur. C'est une chanson de Jean Fauque, tirée de l'album qu'il a fait magnifique. La musique est de Christian Gaubert, qui l'accompagne au piano. Et la chanson s'appelle Off the Record. Et c'est une chanson sur une ancienne chanteuse. C'est une chanson un petit peu... amère quand même.
Elle a frôlé dans les seconds rôles, les a ratés selon son désidérata. La nuit tombe sur l'abat-jour. Et l'amour abattu, off the record, n'a plus rien de vraiment drôle, de vraiment drôle. Elle s'aligne aux vibrations, montant du carrefour giratoire. Elle s'allonge et balance l'émotion. Les boueurs du soir. Et
Magnifique.
C'est très loin de vos interprétations.
Non, mais j'étais en train de penser grâce à vous à ça. C'était, voilà, exactement l'exemple de ce que vous citiez tout à l'heure. Imaginez-vous que Jean m'apporte ça,
oui,
sous forme, bien sûr, pas aussi élaborée, mais m'apporte ça en train de pour une chanson pour moi.
Oui.
Eh bien, vous voyez, pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, il faut que je me projette dans le chanteur que je suis, pour dire, bon, de cette chanson qui est merveilleuse, avec des qu'est-ce que je peux apporter ? Et si lui dit, bravo, tu m'as filé le poil, je vous dis, ma mission est accomplie.
Et vous n'auriez pas peur de son côté cafardeux ?
Non,
parce que
alors,
c'est une chanson extrêmement cafardeuse.
Je vais vous dire, chère Hélène, quand j'ai fait l'album de 2006, le fameux album éponyme, là, à ICP, j'avais choisi... C'est des jeunes talents, dont Benjamin Biolay, dont Mathieu Chédid, qu'est-ce qu'il y avait, Mathieu Bogart, il y avait Michael Furnon, etc., qui m'ont écrit des chansons. Et l'idée du truc, c'était chacun voyait son petit Dick Rivers à sa porte, quoi. Mais vous pouvez pas savoir, c'est ce que je dis souvent, je ne citerai pas de nom, mais quand j'ai reçu les maquettes des chansons qu'ils me destinaient, il fallait avoir vraiment l'oreille musicale pour pouvoir dire, tiens, cette chanson est vachement bien. Et d'ailleurs, chaque fois, je disais, allons dans un studio, prenons un guitariste, essayons la chanson, je vais me la mettre en bouche pour voir si je peux apporter quelque chose ou pas, avec leur complicité. Mais il y a des trucs où, des fois, je me rappelle, les gens qui étaient autour de moi me disaient, mais attends, tu vas pas chanter ça. Et en réalité, c'était des perles. Donc, mon métier, vous aviez raison, mon métier d'interprète, moi, je le revendique et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez d'interprètes dans la chanson française, la chanson francophone, Il n'y en a pas assez. Il y a trop d'auteurs-compositeurs-interprètes, ou alors par moments les textes sont magnifiques, mais l'interprétation laisse à désirer. Parfois l'interprétation est très bien, mais la composition laisse à désirer.
Il y a aussi une autre école qui pense que être l'interprète d'une chanson, c'est faire les pieds au mur, c'est faire de la voltige, mais pas travailler le texte et l'expression de la chanson.
Alors que moi, je pense que l'interprète, c'est une des choses. Regardez, Frank Sinatra était un interprète. Piaf, qu'on le veuille ou non, était une interprète.
Elle a écrit une de ses chansons, mais...
Montand, oui, oui, bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, c'était un métier d'interprète. Alors qu'aujourd'hui, il y a souvent des trucs, enfin, c'est mon opinion personnelle, sans citer de nom, qui laissent à désirer, parce que justement, on se base trop sur la qualité de l'écriture de la chanson.
Je vous propose d'écouter Bloody Movie.
Ah oui, j'adore cette chanson.
Est-ce que c'est difficile pour vous de chanter Nous nous aimâmes?
Non.
Non.
Non, parce que c'est drôle. C'est Bloody Movie, c'est vraiment un jeu de mots. C'est quoi l'histoire? C'est un peu les films que les gosses adorent aujourd'hui. C'est un peu True Blood et tout ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc sur la réalité. C'est un mec qui est un vampire qui en profite pour faire une sorte de traversée des États-Unis avec un son très New Orleans derrière. Et puis en réalité, on s'aperçoit que c'est un vampire. Moi, c'est une de mes chansons préférées de l'album.
Bloody Movie, donc de Holly le Baron.
Oui, paroles et musique.
Chanté par Dick Rivers, bien sûr.
Tu aurais dû trouver louche mon amour pour Tabasco. Pourquoi je devais t'emmener loin de San Francisco? Tes parents sont pas fous, ils voyaient déjà le diable en moi. Je dois bien avouer que je ne laisserai pas non plus partir une fille comme toi. Une main sur ma cuisse et l'autre dans tes cheveux. Nous ne sommes qu'à Phoenix, mais déjà redingues, amoureux. Quelque chose avant la station d'Exaco. Mon ancêtre de Transylvanie dormait le jour dans son caveau. Laissez-moi vous raconter. De voir assise là dans mon Oldsmobile me monte au cerveau. La vie, c'est dit haut, chaque sort de la vieille radio mono. Il faudrait que je te dise avant de pénétrer l'Arkansas. La voiture, c'est 20 litres, au sang, moi, c'est 2-3 litres de plasma.
Travailler la scène, les gestes, tout ça.
Ça me vient naturellement. Mmh. Je suis né sur scène, moi. Vous savez, il n'y a pas de... J'ai vraiment appris mon métier sur
le
scène.
Tard.
Ah oui. oui, vraiment. C'est-à-dire, moi, je fais partie d'une génération. À l'époque, ça s'appelait des radios crochets. Enfin, en réalité, il n'y avait pas de radio, mais où on faisait des sortes de. Aujourd'hui, ça s'appellerait un tremplin ou. Et la scène, pour moi, c'était primordial. D'ailleurs, faire un disque à cette époque-là, c'était surtout pour faire de la scène. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'aujourd'hui, où le disque, enfin, est en crise au niveau du...
La scène remonte.
On revient aux sources. C'est-à-dire que la plupart des gens, aujourd'hui, font des disques pour pouvoir faire de la scène. Mmh. Alors que pendant très très longtemps, il y avait des gens qui n'avaient jamais fait de scène et qui faisaient des disques qui se vendaient très très bien, quoi. C'est drôle. Et je me rappelle, les contrats faisaient 2 pages au début des années 60. Et la plupart des chanteurs de cette époque-là, que ça soit Gilbert Bécaud, que ça soit Charles Aznavour, que ça soit, ils signaient avec une maison de disques, mais pas pour. En réalité, c'était pour avoir des affiches et pour faire des ce qu'ils appelaient des galas à l'époque, quoi. Mais c'était vraiment le. Nous, on a vraiment tout chamboulé au niveau des ventes quand notre génération est arrivée, parce que les gens s'imaginent, mais c'était le métier, enfin le métier qui n'était pas encore un métier, c'est les ventes de disques, c'était pas monstrueux à la fin des années 50 quand les mecs vendaient, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais s'ils vendaient 5 ou 10 000 exemplaires, c'était le bout du monde, c'était énorme, quoi. Et nous, on est arrivé, c'était par centaines de milliers, donc évidemment, ça a tout changé.
Je vous ai croisé dans un aéroport au Québec. Vous êtes une idole au Québec.
Il m'aime bien, oui, les Québécois.
Extrêmement populaire.
Ouais.
Et vous avez découvert au Québec ce qu'ils appellent la musique western, qui est le versant francophone de la musique country.
Oui, moi si j'adore la musique country. Mais vous savez, alors, la musique country, c'est... Voilà.
Et le western, qu'est-ce que vous pensez de la chanson western québécoise? Vous voyez, un ami critique québécois m'a dit, mais en fait, la plupart des grands succès de la musique québécoise en France, c'est de la... Vous voyez, L'Homme de ma vie, par exemple, c'est une chanson absolument purement country. Il y en a pas mal, en fait...
Mais le problème, c'est un problème aussi de la country music pour les Français, c'est...
En anglais.
Non, c'est pas ça. Non, déjà, c'est en anglais. Et deuxièmement, égal cowboy.
D'accord.
Ce qui est faux. Parce que moi, je suis un inconditionnel de gens comme Willie Nelson, Hank Williams, etc. En réalité, la country, c'est pour les Américains, c'est un peu la chanson à texte. Pour nous en France, c'est-à-dire c'est des moments vécus, c'est vraiment l'histoire de... Or, les Québécois, qu'on le veuille ou non, sont franco-américains. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est des bâtards au sens noble du terme. Ils sont anglais de nationalité, puisqu'ils font partie du Commonwealth. Ils sont français de cœur, plus que les Français.
Il y a la petite gougoute amérindienne, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On se dit, oh, si on regardait l'arbre généalogique, on aurait des surprises.
Et ils sont américains de civilisation. Donc, c'est ce mélange qui est absolument...
Vous écoutez la musique, une René Martel?
Bien sûr, j'ai fait des tournées avec ces gens-là, moi. Vous savez, j'ai mis mes pieds au Québec, première fois en Amérique du Nord, c'est en 65.
Ah, c'est une vraie histoire d'amour avec le Québec, en fait.
Ah oui, non, mais puis eux, vraiment... Alors,
qu'est-ce qu'ils aimaient chez vous?
Ma voix.
Oui.
Mais alors là-bas, c'est plutôt le... C'est pas le rocker du tout. Pour eux, c'est le... Chanteur
crooner,
de balade, le crooner,
un peu.
Voilà, chez eux, ce qu'ils aiment, c'est... Et alors, c'est très drôle, parce que 80% de mes succès au Québec ne sont pas les mêmes qu'en France. Ce qui fait que moi, ça fait longtemps que j'ai adopté un système qui me permet d'aller les visiter, parce que sinon, économiquement parlant, c'était pas possible. J'ai donc, bien sûr, un excellent orchestre en France, dirigé par Oli Le Baron, qui a fait Mister D, mais j'ai un groupe excellent aussi au Québec, qui est dirigé par un mec qui s'appelle Christian Turcotte. Et j'ai donc 2 tours de chant. Alors c'est très drôle, parce que quand je vais là-bas, pas assez souvent à mon goût, mais j'ai l'impression d'être un autre chanteur. voyez.
Oui. Mais quand on lit les journalistes québécois,
oui.
Mon ami Brunet, par exemple, mon ami Sylvain Cormier,
oh,
c'est pas du tout des articles qu'on pourrait lire dans la presse française.
Absolument.
Ils ont un œil neuf,
absolument,
que je trouve très agréable d'ailleurs.
Ouais. Sur moi, oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Non, mais je sais, quand j'essaye d'expliquer ça, on comprend. Il y a vraiment un dédoublement de personnalité entre le excusez-moi de parler comme Alain Delon, mais entre le Dick Rivers français ou franco-niçois, comme vous voulez, et le Dick Rivers canadien, enfin québécois, c'est deux mondes différents.
Désormais.
Oui.
Que vous rappelez quand vous l'apportez, que vous.
C'est une des premières que j'ai enregistrées.
Rouler jeunesse, désormais, Jean Fauque et Oli le Baron, chanté par Dick Rivers.
Regarde la glace et je fonds pour les icebergs. Sans toi, c'est le désert et je m'enlise dans le grand ergue. Je regarde où vont les dunes sous le vent qui a fait les hommes. Il faut bien qu'on assume quand le grand terre vous assomme. Mais comment dormir désormais sans tes yeux d'or? Je suis désarmé. Regarde la gare en train de se préparer avant les grands départs, prêt à tout séparer. Je regarde la poupée auprès de laquelle tu t'endormais. Elle a des yeux d'or et des armées, l'oreiller s'est enrayé. Mais comment dormir désormais sans tes yeux d'or? Je suis désarmé. Mais quand s'endormir désormais, je vois plus l'aurore dans tes yeux d'or. Je me vois dans la glace et je fonds pour les icebergs. Sans toi, c'est le désert et je m'enlise dans le grand ergue. Mais comment dormir désormais sans tes yeux d'or? Je suis désarmé. Mais quand s'endormir désormais, je vois plus l'aurore.
Cher Dick Rivers, on arrive petit à petit à la fin de cette émission.
Oh,
ça
n'a pas
été. Oui, je me dis, il a quand même plein de trucs à dire.
Ah, oh, waouh! Vous appuyez sur le bouton. J'ai une bonne mémoire, surtout. Pour le moment, je suis pas atteint, j'ai pas Alzheimer. Donc, comme j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables dans ma vie, qu'ils soient français, bien sûr, mais je veux dire, c'est des fois, quand je pense à ça, j'ai l'impression que c'est pas moi, quoi. Vous rendez compte que moi, j'ai connu Piaf quand j'étais petit. Mmh. J'allais la voir en concert.
Quelle chance. Quelle chance.
Ah, mais c'était une femme extraordinaire. Et je sais pas, moi, Maurice Chevalier, j'étais au cinéma avec lui aux Champs-Élysées, parce que il allait voir les films en VO, mmh. comme moi. Il y avait qu'un cinéma qui passait les films en VO. Voilà, donc, Brassens, avec qui j'ai eu la chance de dîner un soir. Donc, quelque part, j'ai un grand respect, moi, pour la chanson mmh. française, aussi étrange que ça paraisse, malgré mon américanisme marqué par les médias, par le simple fait que moi, je sais pas mentir, donc j'ai toujours dit la vérité. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, l'Amérique d'aujourd'hui ne m'intéresse plus.
Mmh. Et le rap, vous avez vu ça comment arriver?
C'est phénomène social aussi, comme le rock.
Mais c'est aussi vous voyez, à un moment, le rock, c'était la révolte. C'était la jeunesse et la révolte. Et tout d'un coup, il y a eu le rap, et là, le rock ne pouvait plus dire on est la jeunesse, on est la révolte.
Bien sûr, on avait vieilli déjà, petit un. Et deux, le rap que moi j'ai connu dans la banlieue de Washington aux États-Unis, avant que ça déferle sur la France, le rap, c'est un phénomène social aussi, à la différence que le rock, c'était rebelle, mais on était dans un monde hyper positif, reconstruction, un mec qui était au chômage, c'était un feignant, tout était beau, c'était je t'aime, tu m'aimes, tu m'as quitté, reviens. Tandis que le rap, c'est vraiment les signes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les ghettos de banlieue, le racisme, cette espèce d'apartheid qui s'est créé à tort ou à raison, on ne sait pas qui a commencé. Je veux dire, le rap, c'est un cri de plus de souffrance que de joie, alors que le rock, c'était un cri de joie, quoi.
Rivers, comment vous avez pris cette chanson, c'est...
Ah, quand il m'a apporté... Ça, c'est du... Oui, de Jean, mais c'est une chanson qui est pas du tout... qui aurait pu faire un jeu de mots, mais en réalité, c'est parce que Jean a très bien compris qu'on me parlait toujours et que je parlais toujours du passé, et qu'en réalité, j'étais quelqu'un de très actuel.
Oui.
Et donc, c'est ça qu'il a voulu dire dans le texte, c'est-à-dire c'est un clin d'œil en disant, bon, ok, j'ai connu les vinyles, les craquements, etc., mais j'entends les cormorans qui me crient la mort peut t'attendre, quoi. Donc, c'est ce contraire, c'est... Mais c'est vrai, parce que la première réaction des gens, ça a été ça. Et vous savez que l'album Mr. D a failli s'appeler bien sûr Rivers, et moi j'ai dit stop parce que on va croire encore que c'est un jeu de mots sur mon nom. Voilà. Et après, c'est drôle parce que vous l'avez choisi aussi. J'ai failli appeler l'album Histoire de vie, et Oli le Baron m'a dit non, ça fait un peu film de Claude Sauté avec Romy. Voilà. Donc, et finalement, comme lui m'a toujours appelé Mr. D dans le civil, on a appelé l'album Mr. D.
J'ai plus qu'à vous remercier.
Mais c'est moi qui vous remercie, là.
Cette heure délicieuse que j'ai passée avec vous. Rivers, Jean Foc. Oli le Baron, oui, voilà. Merci, Dick Rivers.
Au revoir, Hélène, merci.
Ça fait déjà 50 ans que je chante, que je vis ma vie, la vie que j'invente, à tracer mon sillon dans les micro-sillons, survivre aux rayures sans faire attention. Les années 60, c'est hier, je respire encore leur poussière, la bande qui tourne à l'envers, j'appuie sur play, sur le bouton. Passé des guerres, j'ai pris des trains d'enfer, j'ai vu les volcans nous cracher la terre. Et des générations, lasses de se rationner, vécu mille jeunesses, j'étais déjà né. Les années 60, c'est hier, je respire encore leur poussière. La bande qui tourne à l'enfer, j'appuie sur play, sur le bouton. C'est hier, je respire encore leur poussière. La bande qui tourne à l'envers, j'appuie sur play.
le bouton reverse, j'appuie sur play. Sur le bouton reverse, j'appuie sur play. Sur le bouton reverse. Ça fait déjà 50 ans que je chante. Je suis pas un fantôme, pourtant ça me hante. Je ne suis pas encore mort, j'entends les cormorants qui me crient le ciel peut t'attendre.
Reverse, reverse-moi un verre, reverse.
Chanson Boom avec Dick Rivers a été diffusée pour la première fois le 25 mars 2012.